Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour les amis et bonjour vos vaches cochons couvées. Quel plaisir de vous retrouver en direct du Salon de l'Agriculture. Vous l'entendez, le son n'est pas tout à fait le même. Nous sommes Porte de Versailles à Paris, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors la bande des bons vivants est avec moi, vous pensez bien, pour vous aider à découvrir et cuisiner le meilleur de nos régions. Elle a enjambé les meules de foin, tapé la bise aux vaches et joué à saute-mouton pour rejoindre cette table. Anne-Laure Femme est avec nous. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour chers camarades.
Ça va bien?
Excellemment bien, avec tout ce monde dans les allées.
Ah oui, il y a du monde. La vigne est une des mamelles de notre agriculture. Il connaît la France des cépages et des vignerons par cœur. Olivier Pouls est là.
Bonjour, bonjour Laurent, Olivier. Bonjour Salon de l'Agriculture. C'est vrai que ça fait envie, là je me suis baladé. Il y a une ambiance quand même incroyable dans ce salon.
Il y a de quoi faire, on peut faire ses courses convenablement. Marion Sauveur est aussi avec nous, vous pensez bien qu'on l'a emmenée dans nos bagages. Elle va nous emmener tout à l'heure à la rencontre de nos agriculteurs, sans oublier son journal de la cuisine. La France, vous le savez, le pays du fromage, Roquefort, Osso, Irati, Brouch et Perraille. On en pince pour la douceur des brebis ce samedi matin, vous entendrez. Le monde agricole est secoué, on le sait, les consommateurs sont perdus. Alors nous allons chasser les idées reçues sur notre agriculture et sur notre alimentation avec Marc Dufumier, agronome et professeur émérite. Quel avenir pour notre agriculture? Comment bien consommer? Il a étudié la question, il a plein de réponses, pleines de bon sens, vous entendrez. Et puis enfin, la bonne vivante Ariane Massenet s'installera avec nous pour parler ripaille et théâtre, deux mots qui vont très bien ensemble. Au menu aussi, une tartiflette pour les vacances d'hiver. Et ben voilà, on passe au salon les amis. Alors, avant de retrouver nos paysans dans les allées du salon, c'est l'heure du goût de la semaine, une tradition dans cette émission. Vous le savez, quel goût a marqué votre semaine? Ça peut être une recette, une rencontre, un restaurant. On va commencer par vous, Anne-Laure. Quel est le goût qui a marqué votre semaine?
Moi, c'est le goût d'un super yaourt très liquide, qui a une acidité très douce et qui a des arômes de levain. Ça s'appelle le Gwel.
Oh, c'est breton, ça!
G-W-E-2-L. Et c'est fait à partir du lait de la Bretonne pinoire. Il n'y en a pas loin de nous, dans les allées, des superbes Bretonnes pinoires. Et moi, c'est particulièrement le Gwel bio d'une productrice qui s'appelle Églantine Touché, qui est dans le nord de l'Ille-et-Vilaine et qui est d'ailleurs présente sur le salon avec tous ses collègues. Je vous recommande vraiment d'aller goûter le Gwel.
Qu'est-ce que c'est bon? C'est comme entre le yaourt et le fromage blanc, c'est un peu fermenté. On appelle ça le gros lait en Bretagne. Vous connaissez Olivier Pouls?
Je le connais et je l'agrémente tout simplement de tout petit peu de confiture.
Ah oui.
Et c'est délicieux.
C'est un cousin du lait ribot aussi. Hein. C'est vrai que c'est la mode des poissons fermentés aussi. Mais c'est la mode et ça, c'est très bon pour notre petite microbiote intestinale.
Le microbiote dit merci. Avec du sirop d'érable aussi, j'aime bien.
Ah ben bah voilà. Merci Anne-Laure Femme. Olivier Pouls, quel goût a marqué votre semaine?
Eh bien moi, c'est celui d'une céréale qu'on appelle le petit épeautre. Le petit épeautre qu'on cultive dans le sud de la France, qui est l'ancêtre du blé. Et c'est une variante, je trouve, intéressante justement au riz, au blé, au pâtes. Redécouvrez cette céréale qui met un tout petit peu plus de temps à cuire. Il faut compter à peu près 45 minutes de cuisson.
Elle est rustique, hein, c'est l'ancêtre du blé
qu'on appelle
le blé des Gaulois.
Voilà, et alors, à ne pas confondre avec le grand épeautre que lui, on utilise pour faire du pain, hein, qui est panifiable et de la farine. Le petit épeautre, c'est vraiment une céréale qu'on va manger, qui sert d'accompagnement. Et moi, je le prépare à la manière d'un risotto, simplement. Donc, le même principe, avec échalotes, un petit peu de vin blanc, mouillé au bouillon, cuit 45 minutes, et à la fin, on lit avec un petit peu de mascarpone. Alors, normalement, le vrai risotto, on ne lit pas, évidemment.
Surtout pas, malheureux, oh là là.
Bien sûr, mais là, comme il n'y a pas d'amidon dans le petit épeautre, on va s'autoriser une cuillère de mascarpone. Franchement, un petit peu de parmesan ou un autre fromage ou ce que vous voulez, c'est délicieux. Puis c'est surtout plein de fibres, c'est très bon pour votre santé.
Le petit épeautre qu'on cultive en Provence et en Haute-Provence.
Absolument.
C'est une filière qu'on a redéveloppée. Donc voilà, encore une fois, consommons local, consommons français. Il y a plein de bonnes choses et on en a la preuve ici au Salon de l'Agriculture à Paris. Mon goût de la semaine, moi, c'est à propos de la pêche, de la semaine de la pêche responsable. En ce moment, c'est la semaine de la pêche responsable. Et il y a un bouquin génial qui s'appelle Poisson, tout simplement, et autres produits de la mer, paru aux éditions Terre Vivante. Avec plein de recettes de poissons et surtout plein de poissons méconnus qu'il faut cuisiner, qui sont bon marché, comme le merlan, comme le chinchard, comme le taco, des poissons qu'on oublie. C'est vrai qu'on pense toujours au cabillaud et au saumon et à d'autres poissons, mais il y a plein de poissons méconnus et qui valent vraiment le coup d'œil.
Et puis surtout, on se rappelle qu'il y a une saison, une saisonnalité pour les poissons, qu'il y a en cette période, par exemple, des poissons qu'on ne mange pas. On ne mange pas de bar en ce moment, car ils sont en train de se reproduire.
De se reproduire, et on les laisse se reproduire tranquillement. C'est comme nous, il ne faut pas les déranger. Allez, nous sommes en direct au Salon de l'Agriculture, vous le savez. Alors, comment s'est passé le voyage jusqu'à Paris? Quel morceau de terroir allons-nous goûter? Dans quel état d'esprit sont nos agriculteurs? Eh bien, Julien Amat a baladé son micro dans les allées du Salon il y a quelques minutes.
Tous les ans, oui, c'est un plaisir de venir. J'ai 24 ans, c'est la première fois que j'expose une vache. On est du Jura, on est présent avec 3 vaches et il y a aussi 2 vaches de Saône-et-Loire. Le voyage à Paris s'est bien passé. On a eu un camion depuis chez nous jusqu'à destination, donc on a suivi le camion.
Écoutez, je suis très content d'être au salon cette année. Je viens là pour aider à mon gendre qui a repris l'exploitation il y a 3 ans. Je lui ai retransmis mon troupeau. Oui, c'est vrai que j'ai des inquiétudes pour eux, oui. On importe de la viande de Pologne et de partout un peu, alors que nous, on produit vraiment de la bonne qualité.
Moi, je suis éleveur, éleveur de Ferrandaise. On est fiers même d'être là pour représenter la race. C'était plus dans notre logique, quoi, dans notre manière de travailler. Le bio, ça correspondait à ce qu'on voulait faire, quoi.
En étant auvergnat, eh ben, on a amené la fourme d'Ambert, Saint-Nectaire, saucisson, jambon sec. Et je pense que les autres, aussi bien du Sud-Ouest que du Grand Ouest, vont avoir amené leurs produits régionaux. Donc c'est à la découverte aussi de ces produits locaux.
Eh bien voilà, ça sert à ça le salon, à se reconnecter effectivement avec les produits de nos régions. Ils sont tous bien représentés. Merci à tous les paysans qui ont pris le temps de répondre à Julien, à notre micro. Et si vous êtes au salon, venez nous voir. Nous sommes sur le stand France Terre de Lait. Et il y a à boire et à manger. Vous verrez, on saura recevoir.
Une table bien garnie.
On revient dans un instant, les amis. Ne bougez pas avec un plateau de fromage de saison. Roquefort et Pérail de l'Aveyron, Tom des Pyrénées et Brouche Corse. Le lait de brebis est à l'honneur ce samedi matin. Bon samedi sur Europe 1, tout de suite.
Jusqu'à midi et demi, Laurent Mariotte vous invite à la table des bons vivants. Et pour ça, direction le salon de l'agriculture.
Et comment nous y sommes absolument, Justine, en direct. Alors écoutez bien, comment voulez-vous gouverner un pays qui compte 258 variétés de fromage, disait le général de Gaulle. Alors aujourd'hui, on en compte plus de 1000. Que dirait-il si le général revenait aux affaires? Alors toutes les régions sont mises en avant ici au Salon de l'Agriculture. On ne peut pas faire effectivement un grand plateau de fromage géant. Donc on a choisi, on a tranché et on a décidé de faire un petit inventaire des fromages de brebis. C'est vrai que le lait de brebis est à la mode, on le sait plus digeste, il y a de beaux élevages en France. Tiens, Anne Lorfam, si je vous dis fromage de brebis, vous pensez à quelle région ?
Quel col, Laurent. Moi, je penserais très spontanément à la Corse de ma maman.
Ah bah oui.
Je goûtais le brooch,
le brooch
de ma tante, qu'il faisait d'ailleurs de manière tout à fait clandestine, je précise.
Fromage frais, mais qu'est-ce que c'est bon.
C'est la saison. C'est délicieux, le brooch. Ah,
c'est le bon, duo aussi Pays Basque et Pays Béarnais.
Ben oui, absolument.
J'étais pas plus tard que cet été, où on goûte des tomes d'estive incroyables.
Avec une appellation qui est l'Osso Irati, hein, qu'on connaît bien.
Voilà. Et puis, bah, les caves, les fameuses caves où l'on fait vieillir, affiner, persiller un certain roquefort, dans l'Aveyron, par exemple.
Voilà, bah vous en sortez pas mal. C'est vrai que ce sont les 3 grandes zones de production des fromages de brebis, l'Aveyron, le Béarn, le Pays Basque et puis effectivement la Corse. Et c'est bon effectivement le fromage de brebis pour la digestion, on est d'accord?
On pense toujours microbiote, Laurent, évidemment.
Ne le dira jamais assez.
Le lait de brebis, c'est plus gras, soit, mais c'est aussi plus digestif parce que les globules gras sont de petite taille et ça va procurer des lipides plus faciles à digérer que dans le lait de vache.
Et voilà. Ben alors tous au lait de brebis, alors il y a du lait de vache hein, pour ceux qui veulent ici, vous pensez bien. On va parler de l'Osso Irati, tiens, Olivier Pouls. C'est vrai que c'est un fromage qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée depuis les années 80. On a fait ça pour structurer vraiment une filière et regrouper deux vallées, l'Osso qui est dans le Béarn et l'Irati dans le Pays Basque. Et il y a tout de même des éleveurs qui n'ont pas voulu rentrer dans cette appellation d'origine protégée, qui ont voulu préserver leur savoir-faire, qui font de la tome de brebis basque, de la tome de brebis du Béarn, qui font de belles choses, mais ils n'ont pas voulu rentrer dans l'appellation. Il y a une petite guéguerre autour de ce fromage et l'Osso Irati industriel n'est pas le même que le fermier non plus.
Voilà, alors c'est vrai que les cadres légaux de toutes ces appellations d'origine protégée, que ce soit pour du fromage ou du vin d'ailleurs, sont pour certains producteurs quelque chose qui n'est pas satisfaisant encore, qui ne garantit pas encore un certain niveau de qualité. Et eux préfèrent rester en dehors. Mais vous avez raison de parler de cette différence entre ce qu'on appelle l'industriel, le laitier ou le fermier, qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres appellations fromagères, oui. Hein, par exemple dans le reblochon. Alors il faut bien les distinguer. Une production de ce qu'on appelle un Osso Irati laitier ou industriel, c'est avec du lait qui a été collecté, qui est souvent pasteurisé.
Ben oui, qui n'a pas le même goût.
Et qui a été réensemencé, qui n'a donc gustativement pas grand intérêt, même s'il est en AOP. Alors que si vous avez un Osso Irati fermier, et là vous allez le reconnaître sur la croûte du fromage avec un petit label où vous allez voir une tête d'animal qui est de face, une tête de brebis.
C'est la brebis,
qui est de
la manèche.
Exactement, elle est de face, alors qu'elle est de profil sur l'industrie.
Exactement.
Donc regardez bien ça. Voilà. Et là, on n'a pas le même goût parce que c'est du lait cru.
Exactement.
Voilà. Donc alors, plutôt de face que de profil. Regardez-nous dans les yeux.
Voilà, on se regarde de face, dans les yeux, s'il vous plaît. Le brooch corse, on le connaît, hein, c'est un fromage frais. C'est obtenu à partir du petit lait du fromage de brebis. On le fait chauffer. Ça devient floculeux, granuleux. Ça ressemble un petit peu à la ricotta. C'est maintenant la saison du brooch. C'est pas l'été quand tous les touristes débarquent en Corse et qu'ils pensent manger du brooch. C'est du faux, là.
C'est du caillé surgelé. Voilà, c'est du caillé surgelé. Ça n'a pas du tout la même
saveur. C'est pour les punzuts, ça, comme on dit.
Hein.
C'est pour les
punzuts,
voilà. les touristes corses. Alors, on parlait du Roquefort, c'est la brebis Lacone qui permet d'obtenir ce fromage qui est magnifique, qui est un fromage à pâte persillée avec une moisissure qui s'appelle le Penicillium Roqueforti. Et cette brebis Lacone, elle permet d'obtenir un joli fromage aussi qui s'appelle le Perrail. Et Marion Sauveur est justement avec Jean-François Dombre, éleveur de brebis, juste à côté de nous, éleveur de brebis Lacone dans l'Aveyron, et on fait un joli fromage qui s'appelle le Perrail. C'est bien ça, Marion, hein ?
Effectivement, je suis au stand en fait des races locales des massifs dans le hall 1 avec Jean-François Dombre. Donc on est au milieu de ces brebis Lacone, elles sont belles toutes ces brebis.
Elles sont magnifiques. Oui.
Alors quelle est la particularité de cette race ?
C'est une race qui est rustique, c'est une race qui sait profiter tandis que le terroir est rude, rude par la sécheresse, rude par les multiples sécheresses tout au long de l'année, rude par l'altitude, rude aussi par
Elle donne beaucoup de lait, Jean-François, cette brebis ?
Alors, c'est une bête que les éleveurs ont su sélectionner pour qu'elle donne du lait. Mais ça n'a rien à voir avec ce que donne une vache ou une chèvre.
Qu'est-ce que ça donne, la fabrication du Perrail ? Il y a plusieurs étapes. C'est un fromage que vous nous avez apporté, là, qui est mi-affiné, en fait, c'est ça ?
Voilà, moi, je vous ai amené des Perrails mi-affinés. On peut les affiner un peu plus, ils vont partir en crème. Mais celui que je vous ai porté, oui, c'est un fromage qui a une 15-20 de jours.
C'est bon, ça. Hein.
C'est un fromage très doux, très savoureux. Quand il est bien fait, une belle longueur en bouche.
Très belle longueur
très
en bouche, oui.
Pas du tout agressif. Hein.
Du beau boulot, Jean-François. Vous l'aimez comment ? Comment vous le dégustez, tiens, vous, dans l'Aveyron ?
Alors, dans l'Aveyron, on le déguste à tous les stades. On le déguste frais, mais ça ne correspond pas aux critères de l'AOP, donc je ne vais pas en parler.
D'accord, ça reste entre nous.
On le déguste mi-affiné, on dit beurré chez nous en Aveyron.
Eh oui.
On le déguste bien crémeux, et puis on peut aussi le déguster sec. Et celui-là, je ne peux pas en parler non plus, parce qu'il ne correspond pas aux critères de l'AOP.
Et celui-là, on peut simplement le râper.
Voilà. N'en parlons pas, on le déguste. Merci à vous, Jean-François Dombre, pour ce joli travail autour du Perrail. Voilà, si vous le voyez chez le fromager, achetez-le. Vous ferez vraiment un bel achat. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant à table avec Marion Sauveur et son journal de la cuisine spécial agriculture, vous pensez bien. A tout de suite sur Europe 1.
Ça y est, le salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin et c'est d'ailleurs là-bas qu'on retrouve la table des bons vivants avec vous, Laurent Mariotte.
Exactement, nous avons baptisé le studio européen sur le stand France Terre de Lait. Venez nous voir si vous êtes dans le hall 1 au salon de l'agriculture. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi pour célébrer notre agriculture, nos produits et nos recettes régionales. Alors avant de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud, vous le savez, véritable ambassadeur de nos régions, c'est l'heure du journal de la cuisine de Marion Sauveur. Elle était avec Jean-François Dombre, éleveur de brebis Lacone pour un beau fromage Perrail il y a quelques instants. Elle nous a retrouvés à cette table. Ça y est, vous connaissez toutes les bêtes par leur petit nom, Marion Sauveur.
Ah bah oui, bien sûr.
Nous sommes d'accord, vous êtes prête pour un journal de la cuisine
spéciale ? Je suis prête.
Agriculture, eh bien c'est parti, voici les titres.
Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris, une 56e édition sous le thème des femmes, des hommes et des talents. Le bio a le vent en poupe, 88% des Français ont mangé des produits issus de l'agriculture biologique en 2018. Et une bonne nouvelle, moins de la moitié des œufs achetés l'an dernier sont issus d'élevage en cage.
Alors, agriculture, des femmes, des hommes et des talents, ça tombe bien, c'est le thème du salon de l'agriculture cette année, Marion.
Un salon qui a ouvert ses portes ce matin et où nous sommes installés avec toute la bande des bons vivants jusqu'à midi et demi. Venez nous voir. Le premier salon agricole d'Europe attend pour cette 56e édition 650 000 visiteurs jusqu'au 3 mars.
Ça fait du monde.
Alors, vous y dégusterez des produits régionaux, vous fabriquerez votre pain, vous rencontrerez des agriculteurs et leurs animaux. Les plus belles espèces sont à découvrir sur les rings du concours général agricole. Il y a aussi l'incontournable égérie du salon, Imminence, une vache, une bleue du Nord, avec son large museau et sa robe blanche tachetée d'un bleu-gris.
Oui.
Et on peut la voir dans le hall 1, Laurent.
Juste à côté, comme le veut la tradition. D'ailleurs, le président Macron vient d'aller la saluer il y a quelques instants.
Et puis le salon, c'est aussi 230 tonnes de paille, 100 tonnes de foin, 650 tonnes de fumier. Alors, nous allons parler d'agriculture tout au long de cette émission, et particulièrement dans quelques quelques instants de l'avenir de l'agriculture avec votre invité.
Oui, absolument. Il est arrivé, Marc Dufumier, agronome plein de bon sens et plein de réponses pour l'agriculture de demain, vous entendrez. Alors, en parallèle du salon de l'agriculture, se tient un autre salon qui s'appelle Sortons l'agriculture du salon, celui-ci.
Oui, pour parler de l'agriculture autrement, à travers des conférences, des ateliers, avec un objectif, mieux comprendre les impacts de notre alimentation sur le climat et trouver des solutions. Alors, ça se passe dans différents lieux à Paris et c'est organisé par Alimentation Générale, le site d'information spécialisé sur l'alimentation.
Vous l'avez dit, le président l'a dit aux agriculteurs ce matin, le bio séduit de plus en plus de Français.
Et c'est ce que révèle le baromètre annuel de consommation de l'agence bio. Près de 9 Français sur 10 disent avoir consommé des produits alimentaires bio en 2018. Les nouveaux consommateurs réguliers progressent, ils sont 17% à l'être depuis moins d'un an. Alors 69% font son choix pour préserver leur santé, 58% pour la qualité et le goût des produits et 56% pour préserver l'environnement. Et ceux qui hésitent encore à consommer bio sont freinés par le prix des produits et d'autres doutes sur le fait que les produits soient totalement bio.
Et en 2018, on l'a dit, moins de la moitié des œufs vendus dans les grandes surfaces étaient issus d'élevage en cage. Donc on progresse, tant mieux.
Oui, et c'est une première. 52% des œufs consommés en France en 2018 étaient bio ou provenaient de poules élevées au sol ou en plein air. 15 milliards d'œufs sont consommés chaque année en France. La filière s'est engagée à ce qu'une poule sur deux soit élevée autrement que dans des cages d'ici à 2022. Et certaines enseignes ont déjà d'ailleurs exclu de leur rayon les œufs de batterie.
Et ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci Marion et à tout à l'heure. Alors on le voit et on l'entend partout, hein, le monde agricole est secoué par plusieurs crises. La dépendance à l'industrie agroalimentaire fragilise de nombreux paysans. Que faut-il espérer pour l'agriculture des années à venir? On en parle avec notre invité Marc Dufumier, agronome et professeur émérite à AgroParisTech, auteur de très nombreux ouvrages sur notre alimentation, sur notre agriculture. Il y en a un que je vous conseille vraiment qui s'appelle 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. C'est un de mes livres de chevet pour tout vous dire. Bonjour Marc Dufumier.
Bonjour.
Très heureux de vous retrouver ici au Salon de l'agriculture. Alors nous sommes en direct, nous rencontrons des agriculteurs, on le voit, fiers de leur métier, de leur territoire. Pourtant de nombreux paysans ne peuvent plus vivre de leur travail. Elle vient d'où cette crise de l'agriculture en fait?
Ben écoutez, oui, hein, elle est à bout de souffle cette agriculture. Eh bien, elle provient d'une mauvaise orientation dans les choix des filières. C'est-à-dire, c'était un peu la politique des prix au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale,
eh oui,
la politique des subventions ultérieurement. Les agriculteurs sont orientés vers des filières qu'on dit sans avenir. C'est-à-dire un blé à 90 quintaux en Picardie aujourd'hui, vu les coûts en intrants, vous savez, engrais, produits phytosanitaires, ne peuvent pas être compétitifs avec des blés de 30 quintaux en Ukraine sur des exploitations de plusieurs milliers d'hectares.
C'est ça.
La poudre de lait avec la Nouvelle-Zélande, les poulets bas de gamme élevés avec du maïs et du soja brésilien, pourraient-ils être compétitifs avec des poulets brésiliens? Donc oui, c'est dramatique. Les revenus aujourd'hui sont dérisoires. On a une profession dans laquelle il y a un taux de suicide assez conséquent. Hein.
Dramatique.
Et dramatique.
Et 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois. Donc ça, c'est le constat qui est effectivement pas brillant, comme on dit. Mais vous allez voir qu'il y a des solutions, du bon sens à apporter et puis des réponses locales, Marc Dufumier. Hein. On va voir ça ensemble dans un instant. Des réponses locales, des réponses aussi en tant que consommateur, peut-être faire des choix différents. On en parle ce matin à la table des bons vivants. Quel choix pour sortir l'agriculture de l'impasse, comment faire nos courses pour mieux manger et soutenir nos paysans. On continue à en parler avec Marc Dufumier depuis le Salon de l'agriculture. A tout de suite.
Europe 1.
Ce samedi, la table des bons vivants a été dressée au Salon de l'agriculture, au stand France Terre de Lait, où on retrouve toute l'équipe et puis vous, Laurent.
Absolument, nous sommes là, Justine, on est bien entouré du Roquefort, du Perrail, du Brouch Corse, des tomes de brebis basques et des tomes de brebis du Béarn, le haricot tiens, de Castelnaudary qui est venu nous retrouver également, nous avons des pommes et nous avons un invité de renom, Marc Dufumier, agronome, professeur émérite à AgroParisTech pour parler de l'avenir de notre agriculture, Marc Dufumier. C'est vrai qu'on s'est échappé un petit peu de cette polyculture qui faisait un petit peu le cœur de nos régions et de nos savoir-faire dans notre agriculture paysanne pour aller vers une agriculture de plus en plus spécialisée. Est-ce qu'il y a des choses à revoir sur notre façon de produire?
Oui, bah exactement. D'abord, retourner vers une plus grande diversification des activités, des cultures au sein des fermes. Ce sera un revenu plus résilient. Hein. Les paysans, quand il y a un accident climatique, si une production est affectée, bah écoutez, les revenus s'effondreront pas complètement. Et puis d'un point de vue strictement, on va dire, écologique, il est clair que une couverture végétale maximale avec des cultures diversifiées, tous les rayons du soleil sont interceptés par les plantes, ça s'appelle la photosynthèse, mais on transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. Il n'y a pas de pénurie de rayons solaires dans les années qui viennent, donc allons-y, une couverture végétale maximale pour intercepter cette lumière. Avoir dans le même sol des plantes qui vont fixer le carbone, on appelle ça photosynthèse, on le prend dans le gaz carbonique de l'atmosphère, en faire un usage intensif, je vais vous dire. La plante, elle prend le gaz carbonique, elle prend le carbone pour fabriquer nos sucres, l'amidon, les lipides.
Eh oui, ça vient de
la
là.
Paille, séquestrer du carbone dans l'humus, elle libère l'oxygène pour nos poumons, ça fait quand même pas de mal.
Et c'est gratuit en plus tout ça, c'est vrai. Et que vous êtes à fond pour utiliser ces énergies renouvelables au maximum, quoi.
Exactement, usage intensif de ce qui est renouvelable et pléthorique comme le gaz carbonique. On utilisera l'azote de l'air pour fabriquer nos protéines, c'est les légumineuses, vous savez, les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les haricots.
Les lentilles, les pois chiches.
Les pois chiches, exactement. Pourquoi devoir en France importer du soja depuis le Brésil, l'Argentine ou les États-Unis, alors qu'on peut très bien produire des légumineuses sur le territoire français?
En voilà une, tiens, ça c'est le haricot sec de Castelnaudary, par exemple. Ça c'est typiquement de chez nous, on peut en produire. Et c'est... On n'en mange pas assez d'ailleurs des légumineuses, ça fait partie des féculents aussi.
Oui, c'est bon pour la santé, y compris prévenir un peu le cancer du côlon, hein. C'est la richesse en fibres. Absolument, oui, oui. Pourquoi ne produirait-on pas nos légumineuses en France pour les humains et pour les animaux? Pourquoi devoir importer autant de soja, de tourteaux de soja? Pourquoi cette dépendance de l'Europe et de la France à l'égard des protéines végétales? Je comprends.
Pourquoi? Alors pourquoi? C'est quoi la question? C'est politique? Ça, c'est l'Europe qui, justement, nous met dans une agriculture qui ne nous convient plus aujourd'hui?
Alors, c'est hautement politique. Hein. C'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. On avait mis des droits de douane à l'importation de blé et de mottes de beurre. Résultat, les agriculteurs, par les prix, ont été incités à produire du blé, de la viande, du lait, etc. Et ils ont été dissuadés de faire le contraire, c'est-à-dire des légumineuses. Et quand nous sommes devenus excédentaires, nous avons eu le tort de poursuivre cette même politique par des subventions octroyées pour les mêmes cultures et toujours pas pour les légumineuses en question.
Alors on a devant nous des pommes, tiens, ça c'est un exemple flagrant parce qu'aujourd'hui on fait venir des pommes de l'autre bout de la planète, d'Afrique du Sud, on leur fait faire 6 mois de chambreuse froide. Ah, elles sont nickel, hein, elles sont brillantes, elles sont parfaites, on dirait du plastique, elles sont fluo. Et à côté de ça, chez nous en France, Marc Dufumier, on abat des vergers parce qu'on n'arrive plus même à trouver de la main-d'œuvre pour ramasser des pommes. C'est un peu ça ce qui se passe. Hein.
Oui, elle est suspecte hein, cette pomme.
Elle est brillante.
Belle. Entre 34 et 40 traitements pesticides dans l'année.
34 et 40
oui,
traitements.
J'ai une préférence pour cette plus petite pomme-là qui doit
oui,
en avoir.
Qui est plus petite.
Plus petite, plus bio et sans doute plus savoureuse. Et surtout moins de résidus pesticides.
Donc ça veut dire que ça, on a du mal quand même à le trouver, cette pomme-là, en supermarché. On va la trouver dans des AMAP, on va les trouver dans des magasins producteurs paysans à côté de chez nous. Mais ça, on la trouve difficilement, cette petite pomme bio en supermarché.
Très juste. Hein. Comme il était dit tout à l'heure, le bio a le vent en poupe. Mais aujourd'hui, nous importons de plus en plus de produits bio parce que notre offre ne répond pas à cet accroissement de la demande. Et là, c'est bien des erreurs de politique. On n'a pas suffisamment aidé à ce qu'on appelle la conversion, le passage au bio. Et y compris, on devrait rémunérer les producteurs qui nous font des bons produits pour les services environnementaux qu'ils nous rendent et évidemment pour la qualité du produit.
Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites, hein, parce qu'on pourrait dire la même chose avec les vignerons qui commencent aussi à moins traiter leurs vignes, Olivier Pouls aussi.
Mais de toute façon, je pense que le mouvement est en marche. Il y a aujourd'hui une prise de conscience de la population que, bien évidemment, il faut protéger ce qui reste de la terre sur laquelle nous vivons, qu'il faut protéger notre santé, qu'il faut protéger évidemment les gens qui travaillent et qui sont au contact de ces produits. Je crois qu'on n'arrêtera pas ce mouvement. On va aller de plus en plus, que ce soit dans la vigne, mais dans toutes les formes d'agriculture, vers une demande de produits mieux tracé, plus bio, plus proche d'un certain sens commun qu'on défend ici chaque semaine chez Les Bons Vivants, où on vous explique quand même que manger de la tomate au mois de février, ça n'a strictement
pas de sens.
Aucun sens, que cette tomate, elle vient du fin fond de l'Espagne dans des conditions écologiquement catastrophiques et qui est épouvantable pour l'environnement. On peut tous faire un petit geste.
Dans le livre que je citais tout à l'heure, Marc Dufumier, votre livre 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation, paru chez Alary Édition, vous dites quelque chose de très intéressant que vous commenciez à dire tout à l'heure. Justement, il faudrait rétribuer nos agriculteurs aussi pour le bien rendu, pour le service rendu au niveau de l'entretien de nos prairies et de nos écosystèmes.
Oui, je pense que tous les services environnementaux, tout le bien-être que nous apportent les agriculteurs quand ils manient un bocage, qui héberge, qui évite l'effondrement des abeilles, qui permet la fécondation du tournesol, du colza et autres, quand des gens nous font une agriculture qui nous évite les algues vertes sur le littoral breton, qui nous évite le désherbant dans l'eau du robinet, qui entretiennent les vers de terre pour favoriser l'infiltration de l'eau dans le sol et éviter les inondations dans la vallée, je trouve que tous ces services d'intérêt général, les agriculteurs mériteraient d'être correctement rémunérés. Et si les agriculteurs sont correctement rémunérés pour ces services environnementaux, bah écoutez, le bon produit qui en résulte pourrait être vendu pas trop cher aux consommateurs.
On parle beaucoup aussi de notre consommation de viande. On sait qu'il faut diminuer la consommation de viande rouge, les charcuteries également. Est-ce qu'on peut manger moins de viande et préserver l'élevage à la fois ?
Oui, c'est possible. Parce qu'il y a trop d'élevage en Bretagne, c'est clair.
Oui.
On voit que c'est l'azote de l'urine qui fertilise les algues vertes sur le littoral breton. Il n'y a pas assez d'élevage dans le bassin parisien. Et si on me dit, oui, mais remettre de l'élevage dans le bassin parisien, il va y avoir, vous savez, les ruminants ruminent, il y a du méthane qui est... Oui, mais n'oubliez pas que dans la prairie temporaire qui va alimenter la vache en question, elle fertilise le sol en azote et la betterave ou le blé qui va suivre dans la rotation n'auront plus besoin d'engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, gaz naturel russe ou norvégien, et très émetteur de protoxyde d'azote, donc contribuant considérablement au réchauffement climatique. Donc, en fait, c'est la redistribution d'élevage sur le territoire qu'il nous faut envisager. Et évidemment, pour des raisons diététiques, je crois, oui, moins de viande rouge, moins d'acides gras saturés, moins de cancer du côlon, s'il vous plaît.
Eh bien, s'il vous plaît, ça peut faire plaisir, évidemment. Du bon sens, revenant du bon sens, en continuant à en parler avec notre invité, Marc Dufumier, agronome. Quel avenir pour l'agriculture? La réponse encore dans quelques instants. Merci d'être avec nous ce samedi matin sur Europe 1, les amis.
La table des bons vivants, c'est votre rendez-vous gourmand du samedi. Et alors de la gourmandise, il y en a au salon de l'agriculture où on vous rejoint, Laurent.
Eh bien oui, on est là et vous entendez ce petit bruit? C'est le haricot sec de Castelnaudary
qui chante
et qui vous fait de l'œil. Notre invité, l'agronome Marc Dufumier, pour parler du bon sens de notre agriculture de demain. On le disait, Marc Dufumier, il ne faut pas opposer agriculture conventionnelle et agriculture bio. On sait qu'elle a le vent en poupe. On a quoi, 6,5 de surface agricole consacrée au bio en France aujourd'hui?
Oui, c'est de cet ordre-là, oui, oui.
Et c'est 15% avec la loi alimentation prévue pour 2022 à peu près.
Oui, espérons qu'on y arrive.
Vous êtes sceptique?
Il faut changer de politique, mais non, on va
Quelle politique
arriver.
Il faut faire alors,
on va gagner.
Selon vous?
Eh bien, je pense que c'est précisément la conjonction de paiement de services environnementaux pour les services d'intérêt général rendus à la société et labellisation bio, terroir, local, pour que le consommateur, ben, effectivement, avec certitude, grâce à la certification, puisse acheter évidemment son produit un peu plus.
Mais est-ce que vous avez que ce matin dans la presse, justement, une série de producteurs, d'agriculteurs en bio attaquent le gouvernement parce qu'ils ne sont pas payés de ce que
les aides à la conversion n'ont pas été payées, oui, avec des dettes abyssales, oui.
Oui, oui, ça commence à faire presque 2-3 ans de retard, c'est insupportable.
Donc à un moment, il faut être cohérent aussi. C'est vrai qu'il faut soutenir le bio, mais il faut que les gens puissent être payés quand même pour les aides à la conversion, parce qu'on le sait, quand on produit bio, on va avoir moins de volume, moins de rendement et forcément des difficultés à boucler les fins de mois.
Oui, oui, et souvent c'est plus de travail. Cette agriculture biologique, elle est aussi très intensive en emploi. Mais est-ce grave de promouvoir une agriculture intensive en emploi?
Bien sûr. Et comment que non, voilà.
Donc la rémunération qui nous arrive de l'Europe, je dirais, doit rémunérer l'emploi et le travail plutôt que d'être des subventions proportionnelles aux surfaces.
C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas la qualité qu'on récompense avec les subventions de la PAC. Ce sont les grandes surfaces, effectivement, enfin quand je dis les grandes surfaces, les grandes terres agricoles qui produisent énormément de céréales, par exemple dans la Beauce ou dans l'Abri, c'est ça?
Absolument.
Vous parlez beaucoup d'agroécologie dans vos ouvrages et dans vos conférences, Marc Dufumier. Pour nos auditeurs, tiens, pour expliquer ce qu'est l'agroécologie en quelques mots, comment vous la définiriez?
Moi, scientifique, je présente l'agroécologie en termes scientifiques. Hein, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, le troupeau et la plante pris séparément, c'est à chaque fois un agro-écosystème, un écosystème agricole qui n'est plus complètement naturel, un bocage c'est pas complètement naturel, mais qui doit être aménagé, qui doit être productif et durable. Et du coup, savoir que toute technique, travail du sol ou protection des cultures, a une incidence sur l'ensemble de l'agro-écosystème. Par exemple, il y a une plante a une maladie, les gens vont mettre un fongicide pour se protéger contre le champignon pathogène.
Oui.
Sauf qu'on oublie que ça tue des champignons très utiles dans le sol, qu'on appelle champignons mycorhiziens, qui s'incrustent dans la racine de la plante, utilisent l'énergie de la photosynthèse, vont développer un mycélium et débusquer des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles. Il ne faut pas les tuer, donc il faut s'interdire les fongicides. Donc on va s'interdire tous les produits incides. Et pour s'interdire les produits incides, il y a des solutions techniques qui sont, on va vivre avec les ravageurs, on va vivre avec les agents pathogènes, mais on va empêcher leur prolifération et on va empêcher leur ravage. Une plante velue qui a pleine de poils, si vous voulez, l'insecte piqueur suceuil, ça de piquer et sucer la sève, il n'y parviendra pas. Une plante, si elle est la feuille lisse et cirée, le papillon dépose son œuf, l'œuf va tout de suite tomber à terre, la larve ne va pas se développer sur la feuille. Donc tout ça, c'est hyper savant, mais effectivement, c'est ça qui va nous éviter tous ces produits en cides.
Et ça nous permettra de faire des volumes équivalents, ou alors au contraire, justement, si on développe cette polyculture un petit peu partout en France, on aura un petit peu de tout dans toutes nos régions, quoi.
Alors, soyons clairs, ça dépend un peu des régions et des pays. Dans beaucoup de pays du Sud, déficitaires en aliments, c'est clair qu'on peut d'emblée accroître les rendements avec une agriculture qui fait l'usage intensif des rayons du soleil, du carbone, du gaz carbonique, de l'azote de l'air, des abeilles, des carabes qui vont neutraliser les limaces, les mésanges qui vont neutraliser les larves du capocaps, oui, on peut accroître les rendements. Chez nous, dans des écosystèmes déjà un peu détériorés, reconstituer un taux d'humus, ressusciter des abeilles parce qu'il y a eu un effondrement, ça va nous demander quand même quelques temps. Donc il faut aider à la conversion au bio, enfin le passage au bio. Il faudra aussi maintenir une aide au maintien, mais l'aide au maintien, en fait, c'est une rémunération pour les services environnementaux.
Et ben voilà, de l'optimisme, on n'est pas que pessimiste, Marc Dufumier, donc. Hein.
On va gagner.
Merci d'être venu à la table des bons vivants, Marc Dufumier. Je rappelle un de vos ouvrages, 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation. Merci d'être venu à cette table, Marc Dufumier.
Europe 1, 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Bientôt midi à la table des bons vivants, 11h42 précisément, c'est l'heure de retrouver le camarade Jean-Luc Petit-Renaud. Alors chez nous, vous le savez, il est attaché à la diversité de nos régions. Stop à la standardisation, oui aux nuances et au savoir-faire d'origine. C'est ce qu'on disait aussi avec Marc Dufumier. Nous sommes d'accord. Bonjour Jean-Luc.
Eh bien le bonjour mes bons vivants, je vous sens très fier là, bien campé dans vos bottes. J'avais envie de vous dire que ce salon de l'agriculture, enfin on le sait déjà depuis un bout de temps que c'est la plus grande ferme du monde. On revient de très loin dans notre gourmandise, dans notre l'art et la manière de manger. Parce qu'autrefois par exemple dans les vins, on choisissait, on disait on va prendre un vin blanc, un vin rosé ou un vin rouge. Mais de savoir qu'il était d'Alsace, de Bordeaux ou d'ailleurs, on s'en fichait un peu. Eh bien aujourd'hui, on a affiné complètement son propre désir. On va chercher au fond d'un département, on va chercher au fond d'une départementale, au bout d'une petite ruelle, quelqu'un qui va faire quelque chose d'exceptionnel. Alors merci à tous ces grands chefs, à tous ces grands éleveurs aussi, parce qu'on se rend compte que, par exemple, si nous n'avions pas eu un Guy Martin du Grand Véfour, un très grand chef de cuisine, du côté des Alpes, avec ses belles origines, on aurait perdu le bleu de terre mignon, qui est un magnifique fromage. Merci à ce boucher aussi de Clermont-Ferrand, qui a su conserver la race ferrandaise. Il restait 6 ou 7 bêtes qui pâturaient autour du Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, il y en a 200, à nouveau 300. Il en va de même, notamment les pommes, toutes ces petites foires improvisées autour des fruits. C'est très riche, c'est très salvateur. Je suis tellement content de pouvoir le découvrir ici, dans cette plus belle ferme du monde. Croyez-moi, la nuit n'est pas encore arrivée.
Ah non, et ça ne fait que commencer, nous sommes d'accord. Merci Jean-Luc pour ce bel inventaire à la Prévert. Non, mais à la Petit Renaud, oui, parce qu'effectivement, c'est nos chefs cuisiniers aussi, comme Guy Martin, vous le disiez, qui montrent aussi la voie pour préserver des savoir-faire d'origine, Olivier Pouls.
Et la France a une chance incroyable, c'est cette diversité unique au monde. Et on parlait tout à l'heure des fromages, de ce millier de fromages qu'on trouve, mais quand on énumère les races à viande, quand on énumère tous les produits...
Le maraîchage aussi.
Le maraîchage, on a en France une richesse unique au monde qu'il faut préserver. Et stop à la standardisation. Effectivement, il faut préserver cette richesse.
On est d'accord, Anne-Laure Femme ?
Ah, moi, j'ai surtout relevé le bleu de terre mignon, mon palais a frétillé. C'est un fromage des Alpes à base de lait de vache persillé.
Très
fantastique,
bon.
Très rare, hélas.
Très, très rare. C'est un petit peu cher, mais quand on en trouve, ça fait partie des choses qu'il faut avoir goûté dans sa vie.
Bon lait de pâturage.
Allez, on continue à se faire plaisir à la table des bons vivants. Nous sommes en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Les amis, dans un instant, nous allons recevoir Ariane Massenet, une bonne vivante de la télévision et de la radio qu'on retrouve à présent sur les planches et à présent sur Europe 1. A tout de suite.
Europe 1.
Même au Salon de l'Agriculture, la table des bons vivants est capable de s'agrandir. La preuve, Laurent, vous venez de rajouter un couvert.
Exactement, merci d'être à l'écoute des bons vivants en direct ce samedi depuis le Salon de l'Agriculture. Pâte cuite, molle ou persillée, on fait le tour des fromages ce samedi matin et c'est vrai que c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Vous la connaissez, femme de télé et de radio, ses premiers pas de journaliste l'ont menée de Tahiti à la bande de Nulle part ailleurs sur Canal+, où elle assiste Antoine Decaune. On la découvre à la télévision aux côtés de Marc-Olivier Fogiel, dont on ne peut pas plaire à tout le monde, sur France 3, juste avant d'épauler Michel Denisot au Grand Journal. Elle a animé sur Europe 1 une émission avec sa sœur. Elle remet ça au Théâtre La Boussole à Paris avec Comme des sœurs, une pièce écrite par Béatrice Massenet, jouée par notre invitée Ariane Massenet. Bonjour Ariane.
Bonjour Laurent.
La bonne vivante Ariane Massenet. Vous avez la banane, vous m'avez dit il y a du fromage, il y a du pain, il y a des pâtes, il y a plein de choses, je suis contente, je suis dans mon élément.
Ah mais vous pouvez pas me faire plus plaisir.
Ah.
Réellement.
Vous adorez le Salon de l'Agriculture. Hein.
J'adore le Salon de l'Agriculture, j'y viens chaque année. Et donc là je suis contente parce qu'il a ouvert hier ou aujourd'hui.
Non, ah, ça ce matin là, oh, on inaugure, bah voilà absolument. Non, comme le président, contente. Vous inaugurez comme le président.
Il y a moins de monde autour de moi je crois. Mais
un petit peu quand même,
un
regardez,
peu, ouais.
Ça arrive. Hein. comme des sœurs. Hein. C'est l'histoire de trois amies d'enfance qui se retrouvent chaque année en souvenir de leur amie disparue. Et il y a une des sœurs qui va faire une révélation qui va enchaîner en fait une série de quiproquos dans cette pièce que vous jouez au Théâtre La Boussole à Paris.
En fait, pour résumer, c'est un dîner de filles.
C'est
un
ça.
Dîner de filles, des copines qui se voient deux fois par an. Il y en a une à Bordeaux, une à Paris, etc. Et elles se voient chaque année. Et là, elles remettent les compteurs à zéro, en fait. Et elles racontent tout ce qu'on peut se raconter quand on fait un dîner de filles.
Oui, et puis ça parle beaucoup du paraître. On ne peut pas tout dire, mais voilà, de la façon de vouloir paraître par rapport à ses amis aussi.
Exactement, hein. Et qu'à partir d'un moment, bon, il faut laisser tomber le masque et être comme on est dans la vie. Donc il y a toute une série de quiproquos et c'est très drôle. C'est vraiment une pièce
très
drôle. Le
dîner de filles, le truc que nous, les mecs, on adorerait.
On peut être une petite souris.
Mais venez voir comme des sœurs au Théâtre La Boussole et vous verrez, vous saurez tout ce qu'on peut se raconter. Tout y passe, la chirurgie esthétique, les mecs, les enfants, tout y passe.
C'est ce qu'on va faire. Quel est votre goût de la semaine, Ariane Massenet?
Alors écoutez, il date d'hier. D'hier soir, et justement, et c'est un peu en rapport avec ce que je vois sous mes yeux, c'est-à-dire le fromage. J'ai une excellente amie, très proche, qui s'appelle Virginie, qui a une fromagerie en face de chez moi, rue Don Raymond, dans le 18e. Et chez Virginie. Et donc, elle est arrivée hier soir avec un beau plateau. Je sortais du théâtre avec un beau plateau de fromage chez moi.
Et une préférence pour lesquelles? Alors, c'est quoi? Vache, chèvre?
Vache, chèvre. Alors, elle dit que le chèvre, en ce moment, c'est pas encore tout à fait la période. Hein, c'est mars-septembre.
Voilà, ça va être avec l'arrivée du beurre aussi. Aussi avec les premiers pâturages.
Exactement. Donc, elle m'a apporté un chèvre qui était excellent, un losange. Et puis, elle m'a apporté un fromage de vache, dont j'ai oublié le nom, mais qui était tout aussi excellent, bien crémeux, tout ce que j'aime.
Alors, vous savez, ici, Ariane Massenet, qu'on aime tester plein de nouvelles choses. Et c'est surtout Anne-Laure Femme qui s'y colle. Et elle a testé, pour nous, écoutez bien, amis auditeurs, elle a testé le chanvre, une plante déjà utilisée en textile, en isolation, on le sait. Mais le chanvre, ça se mange aussi, Anne-Laure Femme.
Voilà, ça ne plane pas vraiment pour moi, mais sachez-le. Les produits à base de chanvre se sont multipliés depuis 2008. Vous avez eu plus de 270 produits d'alimentation qui ont été lancés en Europe. C'est un marché extrêmement dynamique qui est lié, logique, aux tendances dites du cru, du manger sain, du sans gluten, des super aliments riches en nutriments. Et là, Laurent, j'ai testé la gamme Hello Joya. C'est une jeune boîte française qui fait des pâtes, des graines de chanvre décortiquées, des infusions, des barres énergétiques. D'autres marques qui seront présentes au Salon de l'Agriculture qui s'appellent Planète Chanvre ou Gati Chanvre Hall 3. Donc je vous conseille d'aller jeter un œil. Vous pourrez même voir des jolis plants de chanvre pour de vrai. Et voilà, c'est...
Mais les barres énergétiques, on en voit partout, c'est la grande mode des barres énergétiques. C'est pas encore un truc ultra marketé, comme on dit, avec des ingrédients venus de Pétaouchnok à l'intérieur?
Ne vous inquiétez pas, chez Hello Joya en tout cas, c'est 100% français.
Ça c'est bien.
Disons-le, le chanvre a un intérêt vraiment écologique, parce qu'elle ne nécessite aucun traitement aux pesticides. Elle a plein d'atouts écologiques dont je peux pas vous faire la liste tellement c'est long comme mon bras. Et c'est une filière 100% française. La France produit d'ailleurs plus de 50% du chanvre en Europe. Et c'est une plante d'ailleurs qui a failli disparaître au XXe siècle avec l'arrivée de la pétrochimie. Et maintenant, elle représente un intérêt énorme en termes nutritionnels parce que c'est une protéine très assimilable, très digeste, qui est riche en oméga-3, en vitamines, en minéraux. Et même la graine entière, c'est 23% de protéines.
Alors, vous nous avez fait des pâtes. Ça, c'est des pâtes au chanvre qu'on trouve partout dans le commerce, alors, maintenant.
C'est des pâtes au chanvre et sarrasin, toujours de la même marque.
Alors, goûtons.
Que j'ai assaisonné d'un tartare d'algues. J'ai fait un petit accord terre-mer.
Ah oui.
Pour la
blague. Vous lancez dans des trucs. Ah oui, dis donc, c'est iodé votre histoire. Hein. L'iode cache le chanvre. Mais...
Je voulais quelque chose justement.
Parce que le chanvre en soi n'a pas un goût très prononcé.
Non, mais vous êtes sûr de l'accord là quand même?
Écoutez, vous désapprouvez, mais moi ça me
plaît. Non, je désapprouve pas, mais je suis un peu.
Vous êtes un peu déstabilisé, d'accord.
C'est le mot.
Et puis, je fais une petite précision, Laurent. Le chanvre, c'est cousin du cannabis, mais le chanvre textile, c'est le cannabis sativa, c'est pas le cannabis indica.
Donc on peut pas fumer les pâtes.
Olivier Pouls me regarde inquiet. Non, je plane pas, on va pas planer si on mange des pâtes.
Fantasme total, le chanvre cultivé en France n'a rien de planant parce qu'il n'est pas du tout riche en THC.
Ariane, alors vous en pensez quoi, Ariane Massenet?
Alors je suis un petit peu d'accord avec vous, c'est très iodé, votre petit truc d'alme, mais c'est très bon. Alors je serais incapable de dire quel est le goût du chanvre réellement.
C'est
pas désagréable.
Alors j'ai rajouté des algues, et j'ai rajouté aussi des graines de chanvre décortiquées. Elles ont un goût de fruits secs assez prononcé. Et c'est pour ça que j'ai voulu casser ça avec l'algue, parce que sinon vous êtes dans quelque chose de très noix, très noisette. Voilà.
D'accord, très bien. Ben, on a compris. Ben, tous au chanvre, et ça se trouve dans le commerce, évidemment. Et c'est 100% français, donc ça c'est la bonne nouvelle. Nous sommes en direct depuis le salon de l'agriculture avec des agriculteurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. On revient dans un instant avec le plat du jour. Ce sera juste après les titres de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. A tout de suite les amis.
Les titres du journal de la mi-journée, c'est avec Fabienne Lemoyle. Bonjour.
Bonjour Justine, bonjour à tous. À la une du journal de la mi-journée, Emmanuel Macron a entamé son marathon au salon de l'agriculture. L'entourage du président a même prévu un programme qui pourrait aller jusqu'à 22h. L'an passé, le chef de l'État avait déjà battu un record en restant sur place près de 12h30. Il a entamé son marathon par un discours où il a demandé aux agriculteurs de devenir les premiers militants de la transition écologique avec, entre autres, le premier vignoble sans glyphosate du monde. Vous l'entendrez, il a aussi promis au monde agricole de promouvoir l'agriculture française. Dans le cadre de la politique agricole commune, nous retrouverons, porte de Versailles à Paris, nos deux envoyés spéciaux, François Geffrier et Maud Descamps. Pour l'instant, pas de manifestation de Gilets jaunes en vue aux abords de la porte de Versailles. Notez que l'une des figures des Gilets jaunes, Éric Drouet, est dans les allées du salon avec l'intention d'approcher Emmanuel Macron. Les Gilets jaunes toujours mobilisés pour le 15e samedi consécutif. Parmi les actions attendues, un nouveau rassemblement sur les Champs-Élysées et puis des opérations péage gratuits comme à Albertville à l'occasion des départs en vacances. Toujours dans le journal de la mi-journée, nous serons en Colombie pour une journée décisive pour l'opposition vénézuélienne. Elle veut faire entrer, et s'il le faut par la force, l'aide humanitaire qui attend à la frontière bouclée par l'armée vénézuélienne. Europe 1 vous accompagne, vous le savez, à la montagne à l'occasion des départs en vacances. Nous rejoindrons Hélène Terzian. Elle est en gare de Grenoble avec des vacanciers qui s'impatientent pour commencer à monter en station. Le journal des sports avec du rugby, bien sûr, le tournoi des Six Nations et le 15 de France qui reçoit l'Écosse au Stade de France cet après-midi à 15h15 et qui espère surtout une victoire. La 44e cérémonie des Césars, Léa Drucker récompensée comme meilleure actrice pour son rôle de femme victime d'un mari violent dans Jusqu'à la garde hier soir, et Alex Lutz, meilleur acteur dans Guy, un film européen. Enfin, le temps de ce samedi, toujours du ciel bleu, mais des températures maximales en légère baisse. Vous pourrez tout de même compter jusqu'à 22 degrés dans le sud-ouest.
Merci Fabienne, vous commencez à avoir faim ? C'est normal, il est midi sur Europe 1. Et vous êtes à la table des bons vivants.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ça creuse, ça gargouille, soyez les bienvenus si vous venez d'arriver. Nous sommes en direct depuis la plus grande ferme du monde installée à la porte de Versailles à Paris. Le salon de l'agriculture pour vous servir. Alors fromage, maraîchage, élevage, agriculture, recettes régionales ce samedi depuis 11h jusqu'à 12h30. Et on s'installe vraiment en plein cœur du salon. Nous sommes hall 1 sur le stand France Terre de Lait. Et c'est Ariane Massenet qui est notre invitée. Ça va bien Ariane ?
Alors, ça va très très bien.
Alors on vous connaît, vous êtes journaliste pour la télévision, la radio. Mais tout récemment, ça y est, vous avez... la cape de comédienne. Vous êtes à l'affiche de Comme des Sœurs au Théâtre La Boussole, c'est à côté de la Gare du Nord à Paris. Une pièce écrite par votre sœur d'ailleurs et qui met en scène également la pièce, votre sœur Béatrice. Vous travaillez en famille. On parlait de dîner tout à l'heure. Ça ressemble à quoi, tiens, un dîner entre sœurs qui discutent? Qu'est-ce qu'elles mangent, tiens, dans l'assiette? Qu'est-ce qu'on mange chez les Massenet?
On est originaire du Sud-Ouest, donc on a une fâcheuse tendance à manger ce qui vient du Sud-Ouest. C'est-à-dire que c'est jamais très light, si vous voyez ce que je veux dire.
Moi, je vois pas.
Vous voyez pas?
Non.
Donc on aime bien
un bon magret.
Voilà, exactement, voilà, hein, exactement.
Un petit foie gras.
Et ben voilà. Vous avez tout dit. D'ailleurs, dans la pièce, j'amène un foie gras. J'apporte un foie gras à mes copines, qui elles sont devenues complètement véganes, etc. Donc ça leur passe au-dessus de la cafetière. Mais moi, je leur amène un foie gras et j'adore ça.
Il y a même un foie gras végan. Hein. C'est Marie-Sophie elle qui fait ça, elle fait un carton avec ça. Il y a même le foie gras végan de Marie-Sophie. Le faux gras, absolument. C'est la période des vacances d'hiver, hein, on est en plein dedans, c'est la saison des plats de montagne, Ariane Massenet, vous êtes quoi? Vous êtes plutôt tartiflette ou raclette?
Alors moi je suis carrément fonclette. Fonclette, c'est fondu et raclette.
Ah les deux, oh la vache. Oui quand même.
Bah, écoutez, quitte à y aller.
Mais il faut y aller franco.
Il faut fondu en entrée, raclette en plat, et bien petite tartiflette en dessert si on a encore un peu faim.
Exactement.
Un petit sorbet de viande dégrison et on sera très content. Alors c'est vrai qu'avec les températures de ce week-end, des vraies températures printanières, on peut se dire que la tartiflette n'est pas forcément de saison. Mais attention, il y a des petites choses pour l'alléger, vous allez entendre, on va vous donner quelques petits trucs. Et puis c'est vrai qu'en montagne, il y en a beaucoup d'entre nous et beaucoup d'auditeurs qui sont sur les pistes ou qui sont à la montagne. Et c'est vrai qu'une petite tartiflette, ça remet toujours le facteur sur le vélo. Et vous allez nous apprendre à faire une vraie tartiflette, Marion Sauveur.
Et oui, une recette avec des pommes de terre, des lardons, des oignons, du fromage, du reblochon, bien sûr.
Oui.
Ah oui. Alors, il faut savoir que la tartiflette, c'est une recette rustique qui est inspirée d'un plat ancestral, la pella. Et à l'époque, donc, il y avait uniquement des pommes de terre, des oignons et du reblochon. On faisait ça à la poêle, en fait, Laurent.
Ah oui, c'est pour ça qu'on appelle ça ainsi. Alors, Alors, vous êtes allé voir un jeune chef qui fait une version de la tartiflette, mais qui est presque une version gastronomique, je trouve, parce qu'elle a un petit côté... Enfin, racontez-nous.
Alors, c'est Eric Guelpa, donc c'est le chef au chalet de la Croix-Frie à Manigot. C'est sa maman, en fait, Marie-Ange Vera, qui a remis au goût du jour la Pella. Alors, c'était il y a une trentaine d'années, en appelant cette recette Pella tartiflette, du coup, parce que la tartifle, c'est la pomme de terre en patois. Alors, c'est une recette effectivement un petit peu revisitée par Eric Guelpa, vous allez le voir. Et tout commence par une poêle et du beurre, bien sûr.
Alors, on va pouvoir intégrer nos oignons, nos lardons et notre thym. Vous verrez, ça parfume le tout. On va mettre à peu près une quinzaine de centilitres de vin blanc. C'est ce qui va amener un petit peu d'acidité, un petit goût de terroir à notre tartiflette. On réserve ça, on le met de côté. On laisse notre poêle comme ça.
Les pommes de terre coupées en tronçons.
Ajoutées dans la matière grasse. Chaude. Une pomme de terre à chair ferme, chez nous, on n'a pas grand-chose. C'est de la pomme de terre qu'on ramène d'autre part, forcément. On va laisser reprendre une légère coloration, on va laisser blondir. C'est là où je vais à nouveau remettre une petite goutte de vin blanc dedans. Et nos pommes de terre sont revenues. Ce que je vais faire, c'est réintégrer mes oignons et mes lardons à mes pommes de terre. Et j'en pose le reblochon sur la tartiflette. Moi non.
Petite variante.
Je le fais fondre au préalable, qu'il devienne crémeux. Et je l'intègre à mes pommes de terre de manière à bien les enrober. Et je vais enfourner et c'est parti pour 7 minutes.
La tartiflette, c'est une histoire de famille chez vous.
Ma mère l'avait remis au goût du jour il y a une vingtaine d'années. Là, elle est cuite, regardez, elle a doré.
Ça donne faim.
On va aller la déguster. Je suis content de moi, c'est parfait.
On a une pomme de terre qui est à la fois ferme et fondante.
Elle est enrobée de reblochon. Je pense que la recette était bonne, nos ancêtres ont bien fait les choses.
Ah oui, ils ont fait du bon boulot. Ça, c'est vrai que c'est une vraie recette rustique avec de bons produits paysans comme on aime. C'est le terroir d'une région qui est mis dans une casserole et qui est mis dans l'assiette. Et on a la chance d'avoir un joli reblochon.
Ah oui.
Ça vous parle, le reblochon, Ariane Massenet?
J'adore ça.
Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là.
Reblochon fermier,
c'est ce que
avec
dire.
La petite pastille verte. Hein, parce
exactement.
Que là aussi, il faut bien les différencier.
Pas rouge.
Pas rouge, donc ça a plus de goût. C'est reblochon au lait cru. Puis rien, il est parfumé, il est extraordinaire.
Et il faut manger la croûte.
Ah, bien sûr.
Quand je vois des gens qui l'enlèvent, ça m'énerve.
On remange évidemment la croûte. Quand on mange un reblochon, on mange la croûte, nous sommes d'accord. Alors la pastille verte, hein, c'est pour le fermier. La pastille rouge, c'est pour le laitier quand le lait est récolté dans plusieurs exploitations. Tiens, un petit clin d'œil à la famille Missilier au Grand Bornand qui fait un très beau reblochon fermier. Qu'est-ce qu'on boit avec cette tartiflette, tiens, Olivier Pouls?
Alors, je termine.
Oui, alors terminez tranquillement. Terminez. On peut parler
de vous
à leur femme.
Pardon,
Anne-Laure a un truc à dire.
Voilà, on peut rafraîchir cette petite tartiflette avec des pickles, oui. Par exemple. Avec des légumes de saison comme le chou-fleur, la betterave, le navet. Vous mettez dans de l'eau avec beaucoup de vinaigre, pas mal de sucre et des aromates. Et ça vous fait des petites choses à grignoter avec la tartiflette. Ça
oui.
Rafraîchit.
Mmh. Vous avez raison.
Ça ponctue. Une touche acidulée.
C'est une tartiflette de printemps. Et c'est vrai qu'avec le printemps, on a envie de manger acidulé, justement. Et les petits pickles, comme ça, vont venir titiller le gras de la tartiflette. Pensez aussi à une salade d'endive. On est encore dans la saison de l'endive. Une belle salade d'endive, comme ça, avec une vinaigrette d'orange sanguine juste mise par-dessus.
Ah oui.
Ça marche très bien. Et avec la tartiflette, ça peut faire un joli accord. Ça y est, il a fini son quatrième reblochon. Il peut nous parler de la boisson. Qu'est-ce qu'on boit avec, Olivier Pouls?
Alors, évidemment, la tentation serait d'aller en Savoie, mais je trouve que c'est un peu facile. On réduit trop souvent les vins de Savoie. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Oui.
Assez plat d'hiver. Moi, je vous invite à aller ailleurs. Il faut un vin vif avec de l'acidité. En Alsace, par exemple, un Sylvaner un petit peu pointu. Et puis là, tout à l'heure, on nous a déposé une bouteille de Mâcon. Tiens,
on nous apporte
le
choses
sud de la Bourgogne. Et je me dis qu'avec ce fromage et ce reblochon, je tenterai bien ce joli Mâcon Pierre-Clos.
Il est d'où, Pierre-Clos?
Voilà, ben on est dans le sud de la Bourgogne, c'est le cépage chardonnay évidemment, c'est dans le Mâconnais, et c'est une très belle appellation qu'on doit redécouvrir d'ailleurs. Il n'y a pas que Meursault, Chassagne, Puligny en Bourgogne, il y a aussi des appellations moins connues, un petit peu plus au sud, souvent beaucoup plus abordables. Bien moi, tout à l'heure, je vais l'ouvrir avec le reblochon, si je peux en prendre une cinquième fois.
Et voilà, il y a Ariane Massenet qui tapote le verre aussi.
Il est vide.
Je m'occupe de ça. Et puis, j'en profite pour dire aussi que merci pour le pain qu'on nous a apporté tout à l'heure. Il y a un fournil ici sur le salon. Et alors là, on a toute une série de pains absolument délicieux.
Avec des graines et des céréales, on en reparlera tout à l'heure. Ne bougez pas, on revient juste après avec Ariane Massenet qui est notre invitée. Nous vous avons rencontré sur le salon. Vous avez des questions à nous poser. A tout de suite sur Europe 1, les amis. Et bon samedi, il est midi 7, tiens, pour être précis.
La table des bons vivants a été dressée aujourd'hui au Salon de l'Agriculture, au stand France Terre de Lait. Et alors même là-bas, on vous attend 39 21, 50 centimes la minute pour écouter bien sûr toutes vos questions.
Et comment ? Des fromages de brebis, un échange sur l'avenir de notre agriculture avec Marc Dufumier tout à l'heure, une tartiflette maison. C'est vrai que depuis 11h, on a hissé haut les drapeaux de nos campagnes au salon. On est très heureux et très fiers comme nos paysans qui sont autour de nous. Ariane Massenet est notre invitée. Vous êtes née à Pau, Ariane. Vous avez grandi à Tours, vous avez habité à Tahiti, vous êtes revenue à Bordeaux, vous habitez Paris. C'est comme salon de l'agriculture. Vous êtes une vraie carte de France.
Exactement, exactement. Mais du coup, ça m'a permis de découvrir tous les bons produits de chaque terroir.
Alors tiens, s'il y avait une spécialité culinaire que vous deviez retenir parmi toutes les régions que vous avez traversées.
Alors Tours, certainement les rayons.
Ah, les rayons de Tours. Ah.
Oh là là,
et les rillettes de Tours.
Et les rillettes de Tours dont on ne parle jamais.
Mais oui, alors moi j'en parle beaucoup parce que j'ai fait partie de la confrérie l'autre jour et qui sont plus caramélisées que les rillettes du Mans, moins grasses.
Moins grasses.
Et qui sont délicieuses les rillettes de Tours.
Excellent.
Redécouvrez les rillettes de Tours avec du radis noir. C'est encore la saison du radis noir. Juste émincé comme ça par-dessus le radis noir sur les rillettes de Tours, c'est merveilleux. Alors vous savez qu'on répond à vos questions ici à la table des bons vivants, des questions que vous posez au 3921. Eh bien le 3921, on l'a baladé aujourd'hui dans les allées du Salon de l'Agriculture. Il a ouvert ce matin à 9h et nous avons des réponses à vos questions. Eh bien on vous écoute, amis auditeurs, dans les allées du Salon de l'Agriculture.
Audrey de Poitiers, j'aurais besoin de vos conseils. Depuis des années, je rêve de faire une carbonade flamande avec des amis et je ne sais pas trop comment m'y prendre pour ne pas la rater, quel morceau de viande il faut prendre, etc. Donc si vous avez vos conseils, je suis preneuse.
Eh bien Audrey de Poitiers, vous êtes bien tombée. On a un Belge à la table des bons vivants, c'est notre camarade Olivier Pouls. Des morceaux à cuisson longue, hein, on est d'accord. Hein.
Oui, des morceaux à braiser. Moi, il y a un morceau que j'aime beaucoup, c'est la joue de bœuf, par exemple.
Ah, c'est super.
Faites une carbonade à la flamande avec des joues de bœuf, c'est moelleux, c'est fondant.
C'est un ragoût à la bière, la carbonade.
C'est exactement, une bonne bière, de la cassonade. Moi, j'utilise même des spéculoses.
Ah oui,
ce qui donne un côté un tout petit peu épicé dedans. Et puis on laisse cuire lentement, on laisse compoter, tout
oui,
ça.
Oui, un bon 2h30 de cuisson avec
voilà,
la bière.
Sinon, on peut prendre de la macreuse, on peut
du
prendre
paleron.
Du paleron,
du gîte, du jarret,
de la queue, enfin tous ces morceaux qui ont besoin d'une cuisson très lente.
Voilà, et qui vont se développer effectivement et qu'on va pouvoir manger à la cuillère ensuite. Eh bien voilà, vous l'avez votre carbonade, Audrey. Une autre question dans les allées du salon.
Bonjour, Céline de Decize. Je suis actuellement au salon, il fait chaud et je rêve de manger une salade fraîche. Alors, la bande des bons vivants, dites-moi ce que vous pouvez me proposer.
C'est vrai que c'est le printemps, hein. C'est un truc de dingue cette
météo. Ça va peut-être pas durer.
Ça va peut-être pas durer, mais il faut en profiter. Une salade fraîche, il y a la salade Waldorf que j'aime bien, moi, en salade fraîche.
Oui, une salade britannique, c'est
ça ? Oui, c'est une laitue ou une batavia qu'on trouvait qui vient d'un hôtel à New York, effectivement. C'est une salade qui est, pour la légende, faite un petit peu avec les restes, mais qui est très bon marché, avec de la batavia, des noix, des pommes, une petite sauce à base de yaourt et de mayonnaise, un petit peu de miel si vous voulez, et vous mettez du céleri branche aussi. Un joli céleri branche émincé, on n'y pense pas assez au céleri branche, et là aussi, c'est la saison. Une autre idée, tiens, de leur femme.
Bah, moi, je reste sur l'endive. Écoutez,
oui.
Laurent, je suis très basique. Alors, peut-être avec des radicchios ou des trévises qu'on trouve encore en ce moment.
Mélangeons-les.
Voilà, ça fait une super association de couleurs jaune, blanche et violette.
Et une belle amertume.
Et une vinaigrette que je ferais bien avec des herbes aromatiques pour rafraîchir tout ça. Une espèce de pesto maison avec des graines de courge, le tournesol.
C'est bien ça.
Que je mixe.
Et je mettrai quelques petites graines de grenade, moi, par-dessus pour apporter de la couleur.
C'est très osé, Laurent, mais j'approuve.
Mais faut osons. Vous validez, Ariane.
Ah, je valide, j'ai très envie de goûter là, allez me chercher tout ça.
Mais oui, on va les faire. Il y a le reblochon, vous n'avez pas fini votre reblochon et vos pâtes au chanvre non plus, Ariane Massenet.
Non, mais les pâtes au chanvre, j'aime bien, mais bon, je suis plutôt sur le fromage là.
Une autre question dans les allées du salon.
Bonjour, c'est Mickaël de Belmont, à l'Aveyron. Je me posais la question, j'aimerais bien faire un carré d'agneau au foin, à l'étouffer, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que vous pourriez me donner des petits conseils? Merci.
Ah bah du foin, il y en a sur le salon.
Il y en a, on est juste à côté, figurez-vous, du foin de la Croix. La Croix, c'est la plaine qui est à côté de la Durance, dans les Bouches-du-Rhône. C'est le seul foin qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée. Et c'est vrai que la cuisson au foin, c'est délicieux, ça.
On met ça dans une cocotte avec un tout petit peu d'eau. On enrobe et puis ça donne un goût à la viande. C'est assez extraordinaire. On la met au four, la cocotte, tout simplement. Et on laisse cuire dans la cocotte avec le foin.
Voilà, un petit peu d'eau, ça va donner un côté fumé au carré d'agneau. Donc, vous le faites revenir, votre carré d'agneau, à la poêle pour lui faire une belle coloration quand même. Et puis ensuite, vous le mettez dans la cocotte avec le foin et un petit peu d'eau. On peut faire aussi des cuissons basse température en mettant le foin sur l'èche-frite du four. On met un magret de canard, tiens, vous qui êtes du Sud-Ouest, par exemple, Ariane Massenet, où on met un autre morceau. Et on y va sur 85 degrés, cuisson lente pendant 1h30.
Et Laurent est en train de mettre du foin partout
sur le
studio.
Le mange aussi, d'ailleurs.
Alors, ça se trouve en épicerie fine ou dans les animaleries, parce que c'est compliqué à trouver. Hein.
Voilà ce que j'allais dire. Sinon, dans les magasins bio, il n'y en a toujours pas, je crois.
Non, mais ça commence à venir. Mais sinon, si vous avez un paysan bio à côté de chez vous qui fait du foin au moment de la fenaison...
Ah ben, vous allez vous servir.
Il faut y aller. Faites vos stocks de foin.
Et faites aussi du poisson. Vous pouvez faire des légumes au foin. On peut cuire plein de choses avec le foin.
Mais du coup, pardon, excusez-moi, mais quand vous faites des légumes au foin, vous faites comment? Vous mélangez avec de l'eau, avec quoi?
Non, on garde les légumes entiers. On prend des panais, des carottes, par exemple. On va les mettre sur un lit de foin. On va les cuire
dans la
avec
cocotte.
Le foin, dans la cocotte.
D'accord.
Petit tapis en dessous, petit tapis de foin au-dessus. Et ensuite, on retire le foin et on retire les petites brindilles qui pourraient choquer à la surface des légumes. Mais c'est vrai que ça donne un petit côté fumé. C'est vrai que j'en ai mis partout.
Vous allez sortir le balai.
Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous le savez, à la table des bons vivants, on est là pour répondre à vos questions avec Yves Candebord, Anne-Laure Femme, Olivier Pouls. Chaque samedi, le 39-21, attend vos appels. Ariane Massenet, notre invitée à la table des bons vivants. On revient juste après la pause. Nous allons la mettre au défi du questionnaire des bons vivants. A tout de suite, les amis.
Europe 1.
On retrouve tout de suite la table des bons vivants en plein salon de l'agriculture. Alors, est-ce que tout est bon? Est-ce que tout le monde est là, Laurent?
Oui!
Oui!
Oui! Nous sommes tous là avec notre invitée, Ariane Massenet. On est ensemble depuis 11h, absolument, Justine. Ariane Massenet, notre invitée, est à l'affiche de Comme des Sœurs au théâtre La Boussole à Paris. Vous aimez bien travailler en famille, hein. C'est votre sœur qui a écrit la pièce, elle qui vous met en scène. C'est important pour vous, hein, de travailler en famille.
Très important. Je ne suis pas sûre que j'aurais fait du théâtre si ça n'avait pas été elle qui avait écrit la pièce. Ça me semblait assez logique. On a fait beaucoup de choses sur la famille. Là, c'est sur les amis de cœur. Et je me suis dit que c'était, voilà, les amis de cœur, finalement, c'est la famille qu'on se choisit.
Et
tout ça a été logique.
C'est votre première expérience professionnelle au théâtre et les critiques sont bonnes. On dit que vous avez un naturel de comédienne. Bravo, Ariane Massenet.
Écoutez, j'en suis ravie.
Ça fait plaisir.
Ah, ça fait très plaisir.
C'est mieux qu'un coup de pied au derrière, comme disait mon grand-père. C'est ça, c'est le mot. Je cherchais le mot. Alors, on va parler de vin, parce que c'est l'heure des 2 minutes du vin de notre cher Olivier Pouls. Alors, on n'a pas parlé des vins de Savoie tout à l'heure avec la tartiflette et la raclette, mais on va se rattraper, vous pensez bien. Parce que le vin de Savoie, ce n'est pas que pour la tartiflette, Olivier Pouls.
Ben non, j'ai pas voulu l'assimiler. C'est vrai qu'on a l'image du vin de Savoie, franchement, d'une piquette qu'on ne boit que lorsqu'on est au sport d'hiver, devant les cheminées avec la tartiflette ou la raclette. Mais pourtant, c'est un vrai vignoble qui mérite qu'on lui rende hommage. C'est un vignoble qui est vieux de plus de 2000 ans, qui est un vignoble très difficile à travailler, très escarpé. Vous savez, ces paysages de montagne, c'est un vignoble rude et c'est un très beau vignoble.
C'est pas confortable, mais alors c'est un vignoble atypique et il y a sans doute des cépages atypiques.
Oui, alors il est atypique parce qu'il a un climat atypique, évidemment. On est en montagne, on est sur de l'altitude. Les vignes sont plantées parfois jusqu'à 7, 8, 900 000 mètres d'altitude. Donc forcément, on a des contrastes forts de température. Et puis, pour s'adapter à cela, il faut des cépages particuliers. Alors, il y a 25 cépages à peu près qu'on va trouver en Savoie. Alors, il y a des cépages qui sont introuvables ailleurs, qui sont des vraies typicités savoyardes. L'Altesse, la Mondeuse Noire, la Jacquère, le Persan, par exemple. Et puis, des cépages que vous connaissez, le Pinot Noir, le Gamay, peut-être le Chardonnay ou la Roussanne, ça vous dit quelque chose. Voilà, il y a une grande diversité d'expressions, de cépages et de terroirs en Savoie.
Alors, qu'est-ce que ça donne quand on les goûte, justement? Quelle est la typicité de ces vins de Savoie, si on devait définir?
Eh bien, je vous ai apporté deux bouteilles, en l'occurrence un blanc et un rouge. Je vous ai apporté le Jacquère et je vous ai apporté une Mondeuse. La typicité des vins de Savoie, c'est la fraîcheur, c'est l'équilibre. Ce sont des vins très digestes, qui ne sont pas dans la puissance, parce que justement, ce climat particulier fait que ce sont des vins qui, notamment en termes de degrés alcooliques, sont très contenus. On est sur des degrés à 11, 12 degrés maximum, quand dans le sud de la France, on est facilement à du 13, 14, 15.
Oui, c'est ça.
Donc il y a toujours ce côté digeste, il y a toujours une acidité qui est assez présente et qui donne ce côté appétant et cette fraîcheur dans les vins.
Alors on le sait, hein, ils peuvent marcher avec la raclette, la tartiflette, mais quels autres types de plats ils peuvent accompagner, ces vins de Savoie?
La cuisine savoyarde, les poissons des lacs, par exemple.
Ah oui,
admirable.
La ferra.
Par exemple, ça marche très très bien avec ça.
Une truite?
Des truites, des fromages de montagne, bien sûr, mais pas uniquement le reblochon, des tomes. Et puis on peut aller sur des choses un petit peu plus originales, des crustacés. Et même, par exemple, allez, soyons fous, faisons un curry, par exemple, avec une roussanne.
Oh, mais vous êtes
dingue. Ça marche extrêmement bien.
Complètement fou, le mec.
Complètement fou.
La provocation totale, je me lâche.
Mais c'est vrai que c'est bien.
Non, mais c'est vrai que ça marche
très
bien.
C'est la cuisine fusion, il faut oser.
Ben oui, alors bien sûr que je défends souvent les accords régionaux, mais parfois, allez, faisons quelque chose d'un petit peu plus inattendu.
Où est-ce qu'on les trouve et combien ça coûte, ces vins de Savoie?
Alors, c'est pas facile à trouver parce que c'est un tout petit vignoble. Hein, il fait à peine 2100 hectares. C'est un des plus petits vignobles de France. Donc, on en consomme beaucoup localement. Chez les cavistes, vous allez en trouver. Mais ce sont des vins, il faut le dire, plutôt un petit peu cher, mais parce qu'ils sont compliqués à produire et que le travail de ces vignerons, les rendements, etc., font que c'est beaucoup plus compliqué et cher à produire que du vin de plaine, par exemple. Donc les vins de Savoie vont commencer autour de 8, 10, 12 euros la bouteille. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de vin non plus extrêmement cher.
On n'est pas dans des prix délirants.
On n'est pas dans des prix délirants. On va dire qu'entre 15 et 20 euros, on se fait plaisir.
Eh bien, merci Olivier Pouls. Et on retrouvera évidemment les références sur europe1.fr. C'est l'heure de votre questionnaire. Vous allez passer à la casserole, Ariane Massenet. Vous êtes prête ?
Oui, absolument.
Allez, allons-y. Le questionnaire des bons vivants, c'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Ariane Massenet ?
Alors, les demoiselles, je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous connaissez ?
C'est les carcasses.
Ah, les carcasses de canard. Absolument. Une fois qu'on a enlevé qu'on appelle ça les magrets.
Les magrets, le foie, tout ce qu'il y a à l'intérieur.
Exactement. On garde les carcasses, il reste un petit peu de viande, on met ça sous les frites. On retourne, mais à tomber par terre.
C'est dans les Landes. Dans les Landes, on mange ça dans les Landes.
Dans les Landes, dans le Gers. On s'en met partout parce qu'évidemment, il y a du gras partout. Mais
c'est ce qu'il y a de meilleur parce que ça cuit au contact de l'os.
Absolument.
Qu'est-ce que c'est bon ? Votre plus beau repas dans le sens inoubliable.
J'ai un excellent souvenir chez Jean-François Piège lorsqu'il avait sa table d'hôte rue Saint-Dominique où il prend un produit, il le décline de plusieurs façons. J'ai une émotion incroyable.
Un de nos plus grands chefs cuisiniers qui sera bientôt notre invité à votre place justement à la table des bons vivants. Votre pire repas, tiens, Ariane Massenet.
Pire repas, c'est un souvenir qui fait beaucoup rire mon ami Yann Barthès, puisque j'étais avec lui dans un très bon restaurant dans le sud de la France et on avait beaucoup mangé, trop mangé. Comme d'habitude, moi, au bout d'un moment, je ne sais pas m'arrêter.
Eh, c'est ça.
Et voilà. Et le chef a eu la gentillesse de nous offrir un dessert au chocolat déclinable sur trois façons.
Oh là. Les déclinaisons, ça peut faire peur.
C'est terrible. C'est terrible parce que j'ai goûté les trois façons et j'avais déjà plus faim depuis longtemps. Et voilà, il est venu nous parler. J'ai commencé à tousser. Je me suis dit, je vais avoir un problème. Vous savez, quand on dit les dents du fond qui baignent, qui est très vilain, mais c'est exactement ça. Et à force de tousser, j'étais obligée, j'ai pris ma serviette, je suis partie en courant, c'était affreux.
La recette inutile, l'ingrédient inutile selon vous en cuisine ?
Je déteste les décorations assiettes. Quand on met, vous savez, de la carotte et de la salade. En général, je me dis, je me suis gourée de resto dans une brasserie, je me dis, bon, ça ne va pas être bon. Et 9 fois sur 10, ce n'est pas bon.
La demi-tomate cerise.
Oui, affreux.
Le plat que vous ne pouvez pas manger, Ariane Massenet.
Le foie de veau, malheureusement, parce que tout le monde dit que c'est formidable, mais je peux vomir. Et le riz au lait, c'est pareil.
Ah mince, ça fait partie de mes deux plats préférés, on trouvera autre chose quand on dînera.
Oui, exactement.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
Tout ce qui est à base de canard, comme je vous l'ai dit. Ouais.
Le magret, les carcasses, les demoiselles. Ouais, ouais. Quel est votre mot préféré en cuisine, Ariane Massenet ?
Émincer. Parce que je sais pas, je trouve que ce mot est plutôt joli et j'aime bien le résultat. J'adore tous les trucs qui sont vraiment...
La finesse.
Ah, la finesse, j'adore ça.
La transparence, la mandoline permet d'émincer. Attention les doigts quand même.
Attention les doigts,
attention. Ouais. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Ariane Massenet ?
Alors Jacques Chirac, parce que je sais que c'est un bon vivant. Françoise Sagan, parce qu'elle était une bonne vivante aussi. Véronique Sanson, André Daguin, le chef de Auch, qui a été pendant très longtemps.
Absolument, qui est patron de l'hôtellerie et de la restauration pendant de longues années.
Absolument. Jacqueline Maillan, parce que c'est mon idole absolue.
Ah oui, je comprends.
Éric Lavenne, qui est un réalisateur.
Oui, qui sort Chamboule tout bientôt, un super film. Oui.
Excellent film. Et puis Nicholsonville, qui est une attachée de presse qui aime beaucoup, très connue, mais qui aime beaucoup la bonne bouffe.
Des gens qui se tiennent mieux à table qu'à cheval, comme on dit. C'est ça.
Hein, exactement ça. Je ne connaissais pas cette expression, mais j'adore.
Et votre adresse secrète pour terminer, Ariane Massenet ?
Mon adresse secrète, c'est un tout petit resto. J'ai eu la chance d'aller au Japon et je me suis retrouvée à Kyoto et je suis rentrée dans un tout petit resto parce que je le trouvais très mignon. J'ai rien compris. Je ne sais pas ce que j'ai mangé. Il n'y avait rien qui pouvait me rappeler quelque chose que je connaissais et j'ai un souvenir absolument dingue. Mon seul regret, c'est de ne jamais savoir ce que j'avais mangé, mais c'était un souvenir inoubliable.
Oui, on ne va pas y aller tout de suite parce que ce n'est pas la porte à côté quand même.
Hein. On n'a pas l'adresse. Là,
et le mot de la fin, FIM ?
À table.
Eh ben voilà, c'est ce qu'on dit. Merci d'être venu à la table des bons vivants.
Merci
beaucoup. Ariane
Massenet,
je rappelle votre pièce Comme des sœurs au théâtre La Boussole à Paris à côté de la gare du Nord. C'est à 19h30. Allez-y les amis. Merci à la bande des bons vivants, Olivier Pouls pour ses jolies bouteilles, pour ses beaux fromages et ses beaux pains. Merci Anne leur femme pour le chanvre. Vous nous avez mis aux pâtes au chanvre. Vous êtes forte quand même. Hein. Vous
je
nous
sais,
faites goûter des trucs.
Tartare d'ail aussi, c'était génial.
Merci à Marion Sauveur. Merci à tous les artisans. Merci à tous les agriculteurs.
Régalé.
On s'est régalé parce qu'on a eu de belles choses. On a eu de belles choses de nos terroirs, comme on dit. Rendez-vous samedi prochain pour une émission depuis le Salon de l'Agriculture. Nous parlerons protéines végétales avec le maraîcher engagé Xavier Mathias et l'écrivain Daniel Picouli, qui sera notre invité. Bon week-end à la ville et à la campagne. Faites le marché et la cuisine. Et bon salon. Merci à toute la bande des bons vivants, Julien Amat, Lucie Lescourou. Et puis notre réalisateur Jean-Luc Arblade et Laure tient à la programmation. À la semaine prochaine, nous serons toujours ici au Salon de l'Agriculture. Bon samedi les amis.
Bon samedi Laurent, on vous retrouve en effet samedi prochain pour dresser une nouvelle table des bons vivants.